Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité, dans la région de l'Est, 100 000 enfants n'iront pas à l'école cette année. C'est ce qu'ont annoncé ce matin des ressortissants de cette région en proie à l'insécurité. Dossier lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, des manifestants se sont rassemblés ce matin devant la justice militaire qui doit statuer sur sa demande de libération. Climat, des régions du globe vont devenir invivables, alerte l'ONU. L'organisation onusienne parle de canicules inédites pouvant causer des pertes en vie humaine. Et puis l'insécurité et l'instabilité politique impactent l'économie burkinabé. Le professeur Mamadou Diara, agrégé des facultés des sciences économiques à l'université Norbert Zongo, nous expliquera comment, en fin d'édition, il est l'invité de la rédaction. En ouverture d'édition sécurité et éducation à l'est du Burkina, environ 100 000 enfants en âge d'aller à l'école resteront cette année à la maison si rien n'est fait. C'est l'interpellation faite par le Cercle, le comité engagé de réflexion pour la cause de l'Est, au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou ce 12 octobre. Un comité qui a vu le jour le 4 octobre dernier et qui a pour mission de réfléchir à des pistes de solutions. On en sait plus avec Faouzia Zongo et Valérie Guéry.
Dans toutes les provinces de la région de l'Est, seuls deux ont l'assurance de rouvrir les classes en cette année scolaire 2022-2023, ce pour cause d'insécurité. En effet, cela fait 7 ans que la région de l'Est traverse une crise sécuritaire sans précédent et les chiffres sont inquiétants selon le Cercle qui sonne l'alerte. Pascal Lankwande, rapporteur.
Cela fait 7 ans que nos petits-enfants, nos jeunes frères et sœurs ne partent plus à l'école. Plus de 7 ans, je vous dis, et aujourd'hui encore, on attend, et plus de 2 semaines après l'ouverture officielle des classes, sur 27 communes de la région de l'Est, seulement 8 communes ont ouvert les classes, et là aussi, seulement dans les chefs-lieux de communes, et 2 sur 7. Si ce qui a commencé va se terminer bien, selon les statistiques, les prévisions dans la région de l'Est nous donnent à peu près 100 000 enfants en âge d'aller à l'école cette année qui resteront à la maison.
Face à la situation de plus en plus précaire, le comité envisage faire des propositions aux nouvelles autorités qu'il préfère ne pas divulguer pour des raisons sécuritaires. Moïse Lankwande, membre du Cercle.
Ils l'ont dit, il y a des choses de cuisine interne qu'on ne pourra pas vraiment vous dévoiler à cause de sa sensibilité. Mais nous disons à ces nouvelles autorités d'avoir un regard plus dynamique. Et surtout, pas assez de paroles, mais plus d'actes. Parce que nous, en tant que fils et filles, nous avons des initiatives. Mais seuls, on va aller vite. Mais avec les nouvelles autorités, on pourra aller très loin.
Les ressortissants de la région ont mis en place le Cercle pour apporter des solutions idoines à cette crise sécuritaire. Il a pour mission de soulager la souffrance des populations.
L'éducation est également menacée dans le Sahel. Plusieurs centaines d'élèves ont marché hier à Djibo pour exiger la réouverture de leur salle de classe. C'est au Haut Commissariat qu'ils se sont dirigés pour remettre leurs doléances au président de la délégation spéciale. En plus de la réouverture des classes, les élèves veulent le rétablissement des réseaux téléphoniques, la sécurisation de la province et celle de l'axe Djibo-Kangoussi. Si rien n'est fait, ils menacent de ressortir les jours à venir pour se faire entendre. Selon le gouvernement, à la date du 30 avril dernier, 4148 salles de classe étaient fermées du fait du terrorisme. La ville de Djibo est sous blocus depuis plusieurs mois. 70 tonnes de vivres avaient été acheminées le 7 octobre dernier par voie aérienne par l'armée burkinabé, soit plus de 10 jours après l'attaque d'un convoi de ravitaillement à Gaskende où 37 personnes, dont 27 militaires, avaient perdu la vie. Et pour venir en aide aux populations sous le joug des groupes armés, Alain Traoré, alias Alino Faso, et ses collaborateurs ont lancé l'opération Sauvons Djibo et les PDI. 400 tonnes de vivres ont été récoltées pendant 3 jours dans 10 villes du Burkina Faso suite à une alerte lancée le 7 octobre dernier. Selon les initiateurs, ces vivres seront acheminés vers Djibo et d'autres villes en difficulté. Des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et même des non-Burkinabés ont fait des dons en nature et en espèces pour secourir les populations victimes du terrorisme. Et avec son reportage intitulé « Axe d'Ablo-Kaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes », la journaliste burkinabé Mariam Ouedraogo du journal Sidoya remporte le prix de presse écrite de la 29e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Mariam Ouedraogo s'est dit très honorée d'avoir reçu ce prestigieux prix qui récompense ceux qui sacrifient leur vie pour informer les autres. Elle décide de dédier ce prix au Burkina et l'Afrique tout entière. Elle a particulièrement eu une pensée pour toutes ces survivantes de viols commis par des terroristes du Mali, du Niger et du Burkina qui, faute de prise en charge adéquate, attendent dans le couloir de la mort avec des ventres et des dos chargés de grossesses et de bébés lourds à porter. La justice militaire statue ce mercredi sur la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, accusé de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Certes, l'audience n'est pas publique, mais des partisans de l'accusé se sont rassemblés devant le tribunal pour une fois de plus lui manifester leur soutien. Mardi, un regroupement de jeunes avait demandé, lors d'une conférence de presse, la libération immédiate du lieutenant-colonel Zungrana. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout autre sujet, la peinture, facteur d'union et de cohésion sociale, c'est sous ce thème que se tient du 11 au 16 octobre prochain la deuxième édition de Ma ville en peinture. Le lancement officiel de ce rendez-vous culturel est intervenu hier mardi 11 octobre à Ouagadougou. Régis Boni et Yasmine Ebié.
Contribuer par les arts plastiques à la construction et au renforcement de la culture, de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au pays des hommes intègres, tel est l'objectif global du projet Ma ville en peinture. Cet événement culturel compte faire de la peinture un outil de résilience, surtout en ces périodes troubles que traverse le Burkina Faso. Adiaratou Ouedraogo, promotrice du projet Ma ville en peinture.
La peinture, c'est un moyen de communication. Et ensemble, je sais qu'actuellement, les gens ont beaucoup de peur, les gens ont beaucoup à dire. Et à travers la peinture, on va s'unir et puis voilà, transmettre un message.
Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, parrain de la cérémonie de lancement, appelle les Burkinabés à faire de la résilience et cultiver la paix et la cohésion sociale pour le pays des hommes intègres. Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de Ouagadougou.
Nous appelons tous de notre vœu la paix, la cohésion sociale pour le Burkina Faso et pour le monde entier. C'est pourquoi le premier mot qui m'est venu à l'esprit, et de façon vraiment fortuite, c'était « paix et amour » que j'ai pu écrire. Avec une colombe que j'ai dessinée en plus, symbole de la paix.
Les participants qui expriment leur talent artistique sur la toile en profitent pour affirmer leur soutien au FDS. Ils invitent également les Ouagalais à venir découvrir les artistes peintres méconnus du grand public. Moussa Nyenye.
Déjà, nous participons à cette deuxième édition parce que la ville en peinture, ma ville en peinture, c'est un projet qui rassemble, qui permet de mettre en lumière des artistes peintres qui ne sont pas connus. Et c'est un projet qui donne un tant soit peu, un peu de gaieté, un peu de joie dans la ville de Ouagadougou.
Ma ville en peinture est une activité de peinture qui se déroule dans la rue et qui offre la possibilité au grand public de peindre et de s'initier gratuitement à la peinture. Elle est aussi un cadre d'expression pour la peinture décorative corporelle.
L'université Aube Nouvelle a organisé une rencontre avec ses nouveaux étudiants hier à Ouagadougou. Objectif, leur faire part du règlement intérieur et leur donner des conseils pour une rentrée universitaire réussie. Une prise de contact marquant le début des activités académiques et universitaires. Une occasion pour la direction et le corps professoral d'inviter les étudiants au travail et à la discipline. Gage de toute réussite. Le compte-rendu de Ibrahim Niaoné et Yaya Diomandé.
Le baccalauréat en poche, les nouveaux étudiants sont désormais confrontés à la vie universitaire, ce qui pourrait susciter des inquiétudes pour certains. Afin donc de les mettre en confiance avant l'entame du cursus académique, l'Université Aube Nouvelle tient cette cérémonie de rencontre. Le professeur Philippe Sankara est le recteur de l'Université Aube Nouvelle.
Donc il est de notre devoir de pouvoir les rencontrer et leur dire, avant qu'ils n'entrent en classe, quels sont leurs devoirs et leurs droits. Surtout, leur montrer les bonnes manières, les bonnes pratiques pour pouvoir réussir leur année scolaire. Et les mettre aussi en contact avec l'administration, ceux avec qui ils vont en quelque sorte discuter pendant toute l'année. D'abord, les bonnes pratiques, c'est dire aux étudiants que nous sommes dans un établissement ordonné et qu'il faut de la discipline. Et c'est dans la discipline qu'on peut réussir. Aux étudiants, que l'université est aussi leur seconde famille.
Pour être utile à la nation, tout se prépare dès maintenant. Donc il faut allier ardeur et rigueur dans les études. Cheikh Ahmed Compaoré est le délégué général des étudiants.
Je l'ai dit en quelque sorte que ce qui les attend est vraiment très énorme. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est en étant à l'université, ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts pour pouvoir bosser. Là, c'est une fausse histoire. C'est à l'université même qu'il faut qu'on commence à bosser réellement. C'est à l'université même qu'il faut qu'on prenne réellement confiance. Et c'est à cette période-là qu'on prépare notre avenir. Donc ce que je peux les dire, c'est vraiment de redoubler d'efforts, de bosser, de prendre courage et afin de rendre fiers leurs parents et rendre fiers également la nation burkinabè en bossant.
Les étudiants se réjouissent de la tenue de cette plateforme d'échange avec l'administration et se disent prêts à se conformer aux différents règlements émis par l'université. Habiba Nikiema est une nouvelle étudiante.
Je suis contente. Venir à l'université, ce n'est pas permis à n'importe qui d'être à Aube Nouvelle. Je suis très contente d'être ici. Nous sommes les leaders de demain, donc on n'a pas le choix. On doit s'attendre à tout. On doit combattre, se battre pour faire le monde de demain.
L'Université Aube Nouvelle, créée en 1992, possède 30 années d'expérience au service de l'enseignement supérieur au Burkina. Elle est présente à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et dispose de plus d'une quarantaine de filières de formation.
Et en bref, le conseil d'administration de l'université Jean Moulin a confirmé hier mardi la décision de déchoir Blaise Compaoré de son titre de docteur honoris causa. La décision a été prise à l'unanimité, informe le président de l'université Éric Caparno, qui rappelle que l'ancien président du FASO n'incarne plus les valeurs prônées par son institution du fait de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat dans la faire Thomas Sankara. Des inondations au Soudan du Sud ont fait près d'un million de sinistrés. Plus de 900 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent le Soudan du Sud une fois, soit deux fois de plus qu'en septembre, selon une estimation publiée hier mardi par les Nations Unies. Les fortes pluies enregistrées dans le pays ont tué du bétail, détruit des cultures, des maisons, des ponts et des infrastructures de santé. En parlant de catastrophes naturelles, l'ONU alerte sur des vagues de chaleur inédites. Elles devraient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Ouest, préviennent le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la Croix-Rouge dans un rapport publié lundi. Cette vague de chaleur pourrait causer des pertes en vie humaine, des mouvements de population et renforcer des inégalités, selon le rapport.
Omega Sport.
Quatrième journée de la Ligue des Champions. Deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Le Real Madrid a arraché son billet en obtenant un nul 1 partout face au Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré dans le temps additionnel. Et Manchester City, malgré son nul 0-0 à Copenhague et en ayant fini à 10, est qualifié pour le prochain tour. Au programme ce mercredi, Atlético Madrid, Club Bruges et Ajax Naples à 16h45. À 19h, le FC Barcelone sera face à l'Inter Milan. Bayer Leverkusen d'Edmond Tapsoba se mesure au FC Porto. Victoria Pilsen s'attaque au Bayern Munich. Glasgow Rangers contre Liverpool. Sporting affronte Marseille de Issa Kabouré. Et enfin, vous aurez Tottenham-Francfort.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour pointent du doigt ces OSC et partis politiques qui tournent kazakh à chaque changement de régime. La revue de presse est présentée par Alinta Ouedraogo.
L'Express du Faso penche le regard sur les organisations de la société civile et les partis politiques qui, dans toutes les circonstances, ont toujours eu la prouesse de retourner très rapidement leur veste quand cela les arrange. Ce sont tous des hypocrites dont il faut se méfier, alerte le quotidien Boboulet. L'Express du Faso fera donc remarquer que ces organisations de la société civile sont même nées après ce 30 septembre juste pour apporter leur soutien au pouvoir en place. Alors que seulement hier, ils étaient les mêmes qui apportaient leur soutien, parfois indéfectible, au pouvoir déchu. Et même que, quand le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba est arrivé au pouvoir avec ses camarades, ils ont encore été très nombreux, partis politiques comme organisations de la société civile, parfois les mêmes, qui étaient avec le pouvoir de Roch Kabore, à lui apporter leur soutien. Ils n'ont pas manqué pour certains d'organiser des manifestations populaires. Et encore, lorsqu'est intervenu le coup d'État du 30 septembre, qui a renversé le pouvoir du président Paul-Henri Sandaogo Damiba, ils ont encore retourné leur veste. Certains, toutes honte bu, n'ont pas manqué de dire que c'était prévisible alors qu'ils étaient dans le navire. Si ce n'est de la démagogie, ça y ressemble, lance l'Express du Faso, qui poursuit alors que tous les démocrates devraient avoir de la méfiance face à tout pouvoir de fait. Ne serait-ce que ça, avertit le quotidien Boboulet. Dans la même dynamique, le journal Le Quotidien alerte qu'il faut impérativement éviter les erreurs du passé avec les assises nationales annoncées pour les 14 et 15 octobre à Ouagadougou. Des assises comme un éternel recommencement, s'exclame mon confrère. Dans tous les cas, le vin est tiré et il faut donc le boire. On ne peut donc que souhaiter que les participants à ces assises désignées en tenant compte des valeurs d'intégrité, de désintéressement et de patriotisme placent effectivement l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout et qu'il propose une charte dont le contenu ne souffre d'aucune contestation. Une charte de la transition qui doit cette fois-ci être dépouillée de tout ce qui peut constituer une entorse à la bonne marche du pays. Ceux et celles qui pensent que leur participation aux organes de la transition sera une occasion en or pour se faire une place au soleil doivent être écartés du processus parce qu'étant de véritables sensus de la République. Décrivant une situation économique et sécuritaire difficile où l'inflation de 17,8% est le plus élevé des 8 pays de l'UEMOA, le quotidien fera remarquer que tout urge et qu'il faudra aller vite. Et cela doit se constater lors de ces assises des 14 et 15 octobre prochains, surtout au niveau de la charte et des organes qui seront mis en place, conclut le quotidien.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Les relations incestueuses entre les milieux d'affaires et la classe politique au pouvoir font de l'activité économique dans nos pays. La chute d'un pouvoir et l'avènement d'un autre est synonyme de changement d'acteur économique, ce qui nuit à l'essor du secteur privé. Cette analyse est du professeur Mamadou Diarra, agrégé des facultés des sciences économiques à l'Université Norbert Zongo. L'invité de la rédaction répond aux questions de Adam Skaled Ouedraogo.
Bonjour, professeur Diarra.
Oui, bonjour.
Le Burkina Faso a connu deux coups de force en moins de 8 mois, une instabilité politique doublée d'une crise sécuritaire. Quelles peuvent être les conséquences économiques de ces deux facteurs?
Et les conséquences sont multiples. Vous savez que l'instabilité politique a clairement des effets négatifs sur l'activité économique. Ces effets peuvent être des effets directs et indirects. Quand on parle d'effets directs, c'est par exemple la destruction des biens d'autrui en situation de choc politique violent. C'est que qui est arrivé par exemple en 2014 avec la destruction donc d'entreprises et de biens privés. Mais dans les cas récents, pour moi, il n'y a pas eu de violence comme ça sur les biens privés. On ne peut pas parler donc de ces effets directs, mais les effets indirects peuvent être relevés donc à d'autres niveaux. Et vous savez par exemple que le coup d'État, comme celui de janvier 2002, qui est venu interrompre un cadre constitutionnel, a entraîné une suspension de certains financements émanant de nos partenaires au développement, ce qui a naturellement freiné les projets de développement qui étaient en cours d'exécution. Et l'arrêt de ces chantiers a eu un effet négatif immédiat sur les travailleurs qui se sont retrouvés au chômage. Aussi, il faut savoir que dans nos pays où les institutions ne sont pas très solides, l'instabilité politique entraîne des chamboulements institutionnels qui viennent freiner la mise en œuvre de l'action publique, toutes choses qui inhibent l'activité économique. Il ne faudrait pas également oublier ces relations incestueuses, j'allais dire, entre les milieux d'affaires et la classe politique au pouvoir qui fondent généralement l'activité économique dans nos pays. La chute d'un pouvoir et l'avènement d'un autre est synonyme d'un changement d'acteurs économiques, ce qui nuit considérablement à l'essor du secteur privé. Et c'est présent, l'instabilité politique devient un facteur déterminant de l'instabilité économique et tout changement, même mineur, à la tête d'un ministère peut entraîner ou peut entraver la mise en œuvre de grands projets d'investissement, d'autant plus qu'au sein d'un même parti politique au pouvoir, la remise en cause des actions d'un prédécesseur par le ministre entrant est monnaie courante, malgré bien sûr l'existence d'instruments de planification souvent bien définis dans chaque département ministériel. Vous avez également évoqué le cas de la secte de l'insécurité. Ça, c'est un autre volet. Notre pays a froid dans un contexte sécuritaire difficile depuis 2015. Cela a naturellement des conséquences sur l'activité économique. Et il est évident que ces effets ne sont pas observés dans presque tous les secteurs de la vie économique. Mais les plus durement touchés, c'est le secteur agricole, c'est-à-dire au milieu rural, au sens large, bien sûr, et le secteur de l'hôtellerie du tourisme.
En plus des performances économiques du pays, il y a les répercussions que cette situation peut avoir sur la perception des investisseurs. Alors, quel est votre regard là-dessus, professeur?
Et évidemment, il est clair que l'instabilité politique réduit l'engouement des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à s'engager dans des projets d'investissement de long terme qui sont porteurs de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Et cela parce que l'instabilité politique crée ce qu'on appelle de l'incertitude qui contribue à accroître le risque lié à l'investissement. Et donc, si la situation sécuritaire constitue déjà un frein pour l'investissement, l'instabilité politique que nous avons observée ces derniers 6 mois pourrait encore aggraver la résistance des investisseurs donc, à s'engager dans des projets d'investissement de long terme. Et mais ce qu'on peut retenir, il ne faut pas oublier que la stabilité politique non plus, ce n'est pas une condition suffisante pour le développement. La stabilité politique est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour l'état économique d'un pays. Parce qu'on a pu observer des pays qui ont connu de longues périodes de stabilité sans que cela ne se traduise par une amélioration remarquable de la situation économique. Parce qu'un long temps passé au pouvoir, après parti, ça comprend parfois d'inefficacité à cause donc, de la corruption du clientélisme. Ce sont ces longues périodes de stabilité politique sans résultat notable en termes d'amélioration des conditions de vie des populations qui sont aussi à l'origine des remous sociaux et des crises politiques que nous observons.
Le Burkina Faso, depuis quelques mois, a le taux d'inflation le plus élevé de l'espace UEMOA. Avec le coup d'État du 30 septembre dernier, faut-il craindre pour le pouvoir d'achat des Burkinabés?
Non, parce que le coup d'État n'a pas grandement perturbé les chaînes d'approvisionnement locales et même extérieures du pays. Vous savez que la fermeture des frontières n'a duré que quelques jours. Et je voudrais rappeler que l'inflation que nous observons est le taux le plus élevé au niveau donc, de l'UEMOA, 18,5% donc, pour le mois d'août, résulte d'un ensemble donc, de facteurs qui, généralement, sont de deux ordres. En termes de perspective, pense qu'avec l'avènement des récoltes là, nous sommes en train de quitter la zone de soudure et cela doit s'accompagner d'une réduction des prix sur les marchés.
Que faut-il finalement prendre comme mesure pour donner un second souffle à l'économie burkinabé?
Avec les assises, il y aura dans quelques jours, cela va permettre d'aboutir à une situation consensuelle qui crée la confiance et la stabilité pour les acteurs. Et l'essentiel ici, c'est de construire des institutions fortes. Et ce qu'il faut faire également, c'est que nous devons travailler à faire une part nette entre la sphère politique et les hommes d'affaires. Et lorsque ces deux sont très inféodés, une petite instabilité quelque part entraîne l'écroulement de tout le système.
Merci, professeur.
Merci.
À l'instant, le professeur Mamadou Diarra, agrégé des facultés des sciences économiques à l'université Norbert Zongo. C'est avec notre invité que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tienrebogo à la retransmission Facebook Yaya Dumondé. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.